11h33, on reçoit notre vétérinaire Raymond Place. Bonjour.
Salut Catherine.
De l'hôpital vétérinaire La Salle. Beaucoup de questions déjà. Raymond, j'espère que tu es prêt. Parce que depuis une semaine, on reçoit des courriels et des questions à ton attention.
On a une semaine de questions à réveiller.
Exactement. Donc, j'ai ma pile tout juste à côté. Mais tout d'abord, on va parler de la nourriture pour les animaux. Il y a plein de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, quand on en parle également dans notre entourage, notamment la nourriture sans grain, ce qu'on appelle le grain-free diet. T'en penses quoi?
Bien, en fait, c'est pas ce que j'en pense. J'en pense à rien avant quelques semaines où on était mis au courant, les vétérinaires, qu'il y avait une association directe entre une certaine maladie qui s'appelle la cardiomyopathie dilatée, qui est une maladie cardiaque qu'on observait chez certaines races de chiens de façon relativement rare. Là, on s'est aperçu qu'on en avait une montée assez importante de ces cas-là et que là, ça affectait plusieurs races, incluant les chats. Là, on changeait même d'espèce. Et l'étude rétrospective, finalement, a révélé que presque 700 animaux, finalement, qui avaient eu cette condition-là, la seule chose qu'ils mettaient en commun, c'était qu'ils prenaient une nourriture sans grains. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait, dans le fond. Ce qui veut dire que si votre chien a une nourriture sans grains, c'est pas logique de continuer à le nourrir avec ce type de diète-là. Même si on n'est pas certain du pourquoi, on est certain de ce qui arrive. C'est-à-dire que votre chien est beaucoup plus à risque de développer cette condition-là s'il ne prend pas de grains. Et là, on va entendre les gens nous dire « Oui, mais c'est un chien dans la nature, c'est pas ça que ça fait, ça mange de la viande. » Le chien descend du loup, puis le loup, là, il chasse pas du caribou à tous les jours, là. Ça y arrive de passer une journée. Donc, tu sais, on regarde les loups, là, c'est un pack à dos. Ça, c'est un. Deuxièmement, le chien, ça fait plus que 10 000 ans qu'il est avec l'humain. Donc, c'est adapté à nous et à notre diète. Et de plus en plus, en fait, ce qu'il mange ressemble à ce que nous autres, on mange. Et l'humain, c'est pas un carnivore exclusif non plus, là. C'est un carnivore opportuniste, tout comme le chien. On va parler de la nourriture barf ou raw ou crue. Évidemment, il n'y a pas de grains là-dedans. Donc, il ne faut pas donner que ça si on donne ça, sans compter qu'il y a beaucoup d'autres problèmes, entre autres, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des dangers de salmonelle, de listériose. Si une personne est enceinte, c'est impératif de ne pas faire ça, parce que ça peut tuer le fœtus. Donc, évidemment, le risque n'est pas élevé, mais la conséquence est dramatique. C'est comme dire, ouais, mais dans le fond, il n'y en a pas beaucoup de cas de rage, fait que je ne ferai pas vacciner mon chien. Là. Sauf que si votre chien vous le donne par accident, bien, vous êtes mort, là, parce que quand vous allez vous apercevoir des symptômes, il est trop tard. Donc, il y a toujours une différence entre le risque et la conséquence, et la conséquence, elle peut être très grave.
Il parlait justement de ces types de nourriture-là parce que les gens vont souvent demander conseil à leur vétérinaire ou tout simplement aller en animalerie ou au supermarché, ils vont prendre la nourriture. Mais comment on s'informe de savoir? Parce que j'en parlais d'ailleurs ce matin au sujet, puis la nourriture crue et tout ça pour les animaux, puis il y avait vraiment deux côtés. Moi, mon chien peut juste manger ça, donc c'est ça que je lui donne, puis ça va très bien, puis elle
est en forme. Il y a des fois où c'est vrai qu'un chien doit avoir une nourriture qui est inusitée. Souvent, ça va être temporaire. Tu sais, votre chat, mettons, vous avez un chat qui a un trouble de vessie. Il fait des infections de vessie ou il a tendance à avoir des cristaux dans son urine, il fait des pierres. Il va avoir besoin d'une nourriture spécifique qui souvent va contenir plus de sel parce qu'on veut forcer le chat à boire. Il vieillit, puis là, il est rendu plus âgé, puis là, il commence à avoir des troubles de rein. La nourriture qu'il avait besoin quand il avait 2 ans est rendue complètement inappropriée parce que là, le taux de sel, on veut qu'il réduise parce qu'on veut diminuer sa pression sanguine. Donc, la solution à un certain âge, c'est le problème à un autre. Donc, il y a autant de diètes chez les humains qu'il y en a chez les chiens qu'il y en a chez les chats pour la bonne raison qu'il n'y en a pas une qui fait à tout le monde puis il n'y en a pas une qui fait pour tous les stades de la vie. Mais c'est pas vrai que... En fait, il n'y a aucune de ces diètes-là qui sont une panacée. Puis il y a beaucoup de modes là-dedans. Puis la diète sans grain est une mode. C'est venu probablement du gluten, de la panique sur le gluten. Pareil comme si le gluten, c'était un problème. Mais le gluten est autant un problème que les arachides en sont un. C'est-à-dire que si vous avez des allergies aux arachides, bien, le beurre de peanut, c'est peut-être pas le meilleur affaire à manger sur vos toasts dimanche matin. Ceci étant dit, si vous n'avez pas de problème, il n'y en a pas de problème. Le gluten, c'est pareil. Ça affecte 0,7% de la population. Là, c'est rendu que les compagnies en profitent pour arriver avec des étiquettes gluten-free puis nous charger le trip, alors que c'est pas un problème pour la majorité des individus.
Et on parlait de tendance alimentaire chez les humains. La tendance présentement, c'est le véganisme, ou même les gens qui ne mangent que cru selon différents degrés, qui ne font pas cuire leur nourriture. T'en penses quoi pour les animaux, ça?
Mais pour ce qui est des végétaliens, dans le fond, il y a une nourriture qui existe, qui est végétalienne, que j'utilise beaucoup, en fait, moi, pour les patients qui sont allergiques. Mais les protéines sont hydrolysées, puis les nourritures sont ultra balancées. Parce que le problème qu'il y a avec le végétalisme, les véganes, pour que tout le monde comprenne, c'est que c'est très facile de créer des carences. Donc, il faut se fier à une compagnie, à des nutritionnistes qui ont fait la diète adéquatement. Parce que là, votre chien, c'est vrai qu'il pourrait tomber malade. Là, je parle de chien, je ne parle pas de chat. Là. Un chat, c'est un carnivore exclusif.
C'est très différent.
Là, on parle d'un autre bubite complètement différent. Mais chez le chien, ça peut être fait. Et lorsqu'on diminue, hein, les médecins nous disent qu'on prend trop de viande, lorsqu'on diminue la quantité de protéines animales dans une nourriture, d'une part, on ne peut pas être allergique à la protéine qu'on n'a pas consommée. Et souvent, les allergies, c'est des protéines alimentaires animales. Mais en même temps, c'est que si on réduit la quantité de viande, on réduit les processus, l'importance des processus inflammatoires, l'arthrite, les troubles de peau, c'est tous des processus d'inflammation. Donc, on aide notre système au moins à ne pas surcharger ces mécanismes-là.
Et de faire nous-mêmes notre nourriture à l'animal, c'est-à-dire que moi, je...
Ça se fait.
Oui,
je peux... Ça se fait. Il y a des livres de recettes, puis là, il faut acheter des petites poudres parce que là, effectivement, on veut pas créer des carences, puis à moins que vous faisiez des diètes tellement variées que vous réglez ces problèmes-là, il faut faire attention. Il y a des choses aussi que les chiens ne peuvent pas manger, là, le classique oignon, raisin et compagnie. Sauf que je l'ai déjà offert à des clients parce qu'il y a des nourritures spécifiques pour animaux qui ont des problèmes. Puis là, quand on arrive avec les nourritures commerciales, c'est très dispendieux. Et là, ils vont dire, ben moi, je vais le faire moi-même. Puis là, on leur donne les recettes. Ça dure à peu près 3-4 semaines. Après ça, les gens disent, ça n'a pas de bon sens. D'une part, c'est pas si économique de le faire nous-mêmes, mais c'est surtout que notre dimanche passe. Là,
c'est le temps.
Là, c'est à condition de ne pas avoir deux bergers allemands, là, parce que je vous dis tout de suite, c'est pas le dimanche, c'est le samedi, puis le dimanche qui passe, ça prend un congélateur. Là. Parce que c'est quand vous achetez de la nourriture, en général, vous achetez de la nourriture sec, donc les moulées, qui sont à 10 % d'eau. Quand vous faites votre nourriture, elle est à 70 % d'eau. Fait qu'imaginez-vous la quantité de nourriture que ça prend pour alimenter deux chiens de grande race sous forme humide. Ça devient très, très, très difficile et pas très pratique.
Et donner de la nourriture de table à notre animal, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je fais une petite boulette de steak haché, je donne ça à mon chien, il est content. » Puis je l'ai vu souvent, là, même les restants.
Je suis supposé te dire qu'il ne faut pas faire ça, mais je suis probablement le plus gros tricheur de la planète, fait que je ne pourrais pas culpabiliser les gens de ça. Encore une fois, les chiens vivent avec nous autres depuis tellement longtemps que je ne peux pas croire que c'est un problème. Maintenant, c'est probablement un problème comportemental qu'on crée sans faire exprès. Vous ne pouvez pas vous choquer que votre chien vous regarde puis qu'il perd sa livre quand vous êtes à la table si lorsqu'il le fait, vous le récompensez en lui donnant de la nourriture. Si vous êtes capable de vivre avec ça, en tant que vétérinaire, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas un problème. Parce que la portion, dans le fond, si vous êtes capable de vivre avec ça, tant mieux, vous êtes heureux. Il ne faut pas évidemment que ça crée de l'excès de poids parce que là, c'est marqué sur votre sac qu'il faut vous donner une demi-tasse, puis vous donner une demi-tasse, puis 14 biscuits,
ouais.
Puis trois fois des restes de table parce que vous prenez trois pas à la maison. Parce que là, c'est parce qu'il y a une double diète, votre chien. Là.
Mais il doit donner exclusivement du manger de table à l'animal?
Bien, c'est parce que c'est sûr, ça ne va pas être balancé. Mais en même temps, je me demande à un moment donné si... Quand on fait bien attention, finalement, puis qu'on prend un petit peu de conserve, on prend de la nourriture commerciale, puis qu'on on est très, très strict, je pense que notre chien mange mieux que nous autres. C'est pour ça que donner que de la nourriture de table, c'est probablement pas bon. Mais c'est parce qu'on sait pas ce qui va se produire. Encore là, vous avez un chat, qu'est-ce que vous mangez? Parce que là, c'est ce que vous donnez. Est-ce que ça va avoir tendance à un effet sur la qualité de son urine, le
sa
pH
santé,
de son urine?
Ouais.
Puis on voudrait que notre chat vive éternellement, notre chien vive éternellement. Fait que quand vous donnez de la bonne nourriture, dans le fond, si elle est bien balancée, puis bien, tu sais, c'est fait par des nutritionnistes, ben à ce moment-là, vous maximisez ça.
Mais est-ce que les chats, c'est plus difficile pour les nourrir? Parce qu'on a l'impression que les chiens, on peut leur donner différents trucs. Les chats, oui, un petit peu manger de table. On a toujours eu l'impression que les chats aimaient beaucoup le poisson. Là. Je pense que c'est dans l'imaginaire, là, mais...
Non, ben, y a des chats qui adorent le poisson. Il y a des chats qui détestent le poisson. C'est pas compliqué. Un chat, ça aime ce qu'elle aime. Puis là, on peut essayer de s'argumenter avec un chat, mais je vous dis, c'est une guerre qu'on va pas...
Une tête de pioche.
On va pas gagner. Moi, Moi, pour moi, c'est la même chose. Il faut que le chat soit heureux, il faut que vous soyez heureux, il faut qu'il prenne une bonne nourriture. Idéalement, le chat a besoin beaucoup plus de conserves qu'il en consomme en général. Les gens donnent du sec parce que c'est pratique. Un chat devrait toujours être nourri avec un objet, donc un jouet, et devrait être nourri en 3 dimensions. C'est un chasseur. Donc, vous devriez cacher de la nourriture un peu partout de façon à ce qu'il soit obligé de travailler, de jouer avec sa nourriture. Puis, ça lui prend absolument de la conserve parce que les chats qui ont une origine désertique n'ont pas tendance à boire suffisamment d'eau. Et là, ben, à ce moment-là, ça concentre son urine, ça augmente le risque qu'il y ait des problèmes urinaires et des problèmes de reins avec le temps.
On a quelques questions. Mm-hmm. Des auditeurs, je dis quelques, parce que je ne veux pas te faire paniquer, mon cher. On en a plusieurs. Il y a Véronique qui nous a écrit pour connaître et pour que tu puisses proposer quelques noms de marques de nourriture pour chiens qui sont de bonne qualité. Parce qu'en lisant les ingrédients, on réalise souvent qu'il y a un prix élevé. C'est pas nécessairement un gage de qualité.
C'est malheureusement souvent le meilleur.
Ah oui?
Oui. Là, je ne ferai pas la publicité de marques de nourriture comme telle, mais... c'est sûr que quand vous achetez une nourriture réputée, il y a une portion du prix qui va avec le nom. Mais il y a une raison pourquoi il y a un prix qui va avec le nom. Quand j'ai fait ma maîtrise en administration, on disait que quand on était propriétaire d'une BMW, le coût qui avait été estimé était d'environ 5 000 $ pour avoir le droit de dire que ta clé, c'est une clé de BMW quand tu es au bar. Ceci étant dit, c'est que c'est probablement une meilleure voiture qu'une Lada, on se comprend. Donc, l'assurance d'avoir une voiture... une bonne voiture sécuritaire, c'est environ 5 000 $. Je pense que quand vous achetez des nourritures qui sont reconnues, de compagnies qui sont reconnues, il y a une surcharge, mais il y a une assurance qui va avec ça. Donc, malheureusement, le prix est bon. L'analyse garantie. Ça, là, ça ne vaut pas grand-chose. Je me rappelle, il y avait une publicité, puis là, je vais donner les compagnies. C'était Hill's et Purina qui se battaient pour dire qu'il y avait la meilleure nourriture sur le marché. Et la compagnie avait, dans le fond, pour dire que leur protéine numéro un, c'était du poulet et non pas l'énergie, alors que dans toute nourriture, l'énergie, c'est ce qui est important, c'est qu'il avait fractionné la forme d'énergie. C'est qu'à la place d'utiliser juste le maïs, il avait ajouté une autre forme de féculent. Et à ce moment-là, il coupait le maïs en deux, puis ça amenait le maïs en deuxième. Et là, le poulet tombait premier. Est-ce qu'il y avait plus de poulet dans une que dans l'autre? Absolument pas. La quantité de protéines était la même ou à peu près.
C'est du marketing là-dedans.
Donc, c'est du marketing. Mais les gens arrivent. Moi, je regarde, là, je ne peux pas le savoir. La qualité du gras, la quantité de gras, c'est bien beau, mais la qualité du gras, plus il est vieux, plus il est ranci, moins il est absorbable. Mais il y a la même quantité, mais il y en a moins de disponibles pour votre animal. Donc, l'analyse garantie, gardez ça vraiment, vraiment, gardez-vous une gêne à lire ça parce que vous allez, c'est un peu comme Dr. Google, là. On lit ça, puis quand on est fini, on est juste plus mélangé qu'on était, là.
On a juste plus peur aussi après Dr. Google. 11h46, on va prendre vos appels après la pause. 514-790-9850 et de partout au Québec, sans frais, 1-866-790-9850. Et toujours en compagnie du Dr. Raymond Place, vétérinaire de l'hôpital vétérinaire La Salle. On prend vos questions et on commence avec Mario, bonjour.
Oui, bonjour.
Salut Mario.
Mais ça va bien, oui. Vous avez une question sur votre chien.
Oui, moi, là, j'ai un labrador mélangé avec un boxeur. Et puis, la meilleure nourriture, puis il paie beaucoup son poil. J'y donne la Royal Canin. Il y a-tu quoi à faire pour ça?
Bien, la perte de poil, dans le fond, elle a pas mal plus que juste une cause. Juste les températures qu'on a eues récemment, quand il y a des périodes caniculaires, c'est un stress. Chaque stress amène une chute de poils. Aller chez le vétérinaire, c'est un stress. On ramasse plein de poils. Les changements de saison, il y a une mue normale. L'hiver, on chauffe trop. L'animal a tendance à perdre son poil parce qu'il a la peau sèche. Non, ce que je vous suggérerais, c'est pas tellement de changer votre nourriture. Je pense que vous avez une excellente diète. Par contre, je vous suggérerais fortement de le supplémenter avec des huiles de poisson, parce que c'est les oméga-3 qu'on veut qui vont aider à diminuer cette perte de poils-là et lui permettre de tolérer ces stress-là. Il faut que vous arriviez à peu près là, à 30 à 60 mg par kilogramme. Là, je ne sais pas comment votre chien pèse. Ceci étant dit, quand vous achetez des acides gras essentiels, les huiles de poisson, ils vont vous marquer, admettons, 2000 mg. Mais ce n'est pas 2000 mg d'oméga-3. Là, c'est 2000 mg qui comptent les oméga-3, la vitamine E, la vitamine D. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il faut vous regarder EPA et DHA. Vous allez avoir deux chiffres, vous les additionnez et voilà la quantité. Une petite règle rapide, en général, 1000 mg, ça va vous donner environ 300 mg d'oméga-3.
OK. OK. 1000 mg, mettons, moi, je lui donne 4 tasses. 2 le matin, puis 2 le soir.
Mais comment qu'il pèse votre chien, là?
Il pèse 70 livres.
Bon, mettons qu'il pèse 30 quelques kilos. Ça veut dire qu'il faut vous donner 1000 mg. C'est un petit minimum. Fait que vous prenez, dans le fond, une dose là, de 2 fois 1000 mg ou une de 2000. Et c'est le tour est joué. Et là, c'est tous les jours, là. Tous les jours de toute la vie. Okay. Vous allez voir une grosse différence.
C'est une bonne diète.
OK. Merci. C'est quel que tu me conseilles de prendre comme produit?
Ce qu'il faut pas faire, c'est prendre des pots transparents, parce qu'en général, elles sont toutes bonnes, parce que les huiles de poisson sont sensibles à la lumière.
Merci beaucoup, Mario. On prend un autre appel. Josiane, vous avez une question pour Raymond sur votre chat.
Oui, bonjour. Mon chat a 16 ans. Mm-hmm. Puis elle a un problème avec la glande thyroïde. Je suis obligée de lui donner la nourriture sèche, là, YD. Mm-hmm. En canne, elle aime pas ça, elle veut pas. Puis elle maigrit. C'est sûr qu'il faut que j'aille chez le vétérinaire pour une prise de sang complète, là. Mais là,
ce qu'il faut, quand vous avez du YD, le YD, c'est littéralement formidable. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de tricher. Mais là, quand je dis pas tricher, on n'a pas le droit de tricher d'un iota. C'est-à-dire que si vous donnez, mettons, là, une demi-cuillère à thé de n'importe quoi d'autre dans la semaine, votre chat va quand même être hyperthyroïdien. Parce que c'est l'iode. Fait que là, vous ne trichez pas du tout. Là. C'est vraiment important de ne pas tricher. Ça, c'est un. Ceci étant dit, l'hyperthyroïdie chez le chat, c'est une tumeur bénigne de la glande thyroïde ou d'une portion de l'hypophyse qui force la glande à surproduire malgré que le cerveau pourrait lui dire de ne pas le faire ou non que ou le cerveau le demande sans vraiment le demander. Donc, vous avez un niveau de lévothyroxine qui est très, très élevé dans le sang. Et s'il est très élevé, il va se produire quoi? Dans le fond, c'est que le chat a un grand appétit, mais c'est comme si le thermostat, c'est comme si le dimmer était au maximum en permanence. Et on a beau mettre de l'essence dans la voiture, on brûle l'essence plus vite qu'on est capable de le remplir. C'est un petit peu ce qui se produit. Là, évidemment, à 16 ans, votre chat a peut-être d'autres problèmes. En fait, il y a assurément d'autres problèmes. Là, félicitations en passant, parce que pour tous les chats qui se rendent à 16 ans. 16 ans, c'est deux vies de chat, là. C'est, comme on disait tantôt, il est assurément rénal. C'est qu'un chat, à son âge, il a perdu une portion de sa fonction rénale. Et là, ça se peut qu'il échappe des protéines dans son urine. Et là, non seulement il brûle trop rapidement, mais en plus de ça, il en perd. Fait que c'est pour ça, quand on a un chat de cet âge-là, qui est hyperthyroïdien, il faut vraiment consulter malheureusement très régulièrement. Et ça prend des contrôles sanguins régulièrement aussi.
Merci, Josiane. Claudette, vous avez des questions concernant les vaccins pour les chats?
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai un petit chaton qui a été trouvé en campagne, puis là, la personne le nourrit au biberon. Là, moi, je suis censée l'avoir après. Là. À quel âge on commence les vaccins pour un chaton?
Mais dans son cas, ça risque d'être un petit peu plus tard que tôt, parce que là, son développement va être compromis, puis on a beau le vacciner, s'il n'y a pas un moyen de se défendre, on va l'affecter plus qu'on va y aider. Ça, c'est un. Mais quand je dis plus tard que tôt, ça veut dire que ça ne peut pas être bébé plus tard qu'entre 6 et 8 semaines pour le premier vaccin. Parce que là, vu qu'il n'est pas avec maman, on ne sait pas s'il a eu son premier lait, son colostrum. Donc, son taux d'anticorps fourni par la mère, il est à quel niveau? Il est assurément plus à risque. Ce qui veut dire que s'il n'est pas pour avoir ses vaccins, il ne peut pas être en contact ni avec l'extérieur, ni avec d'autres chats, parce qu'il n'est pas en mesure, il est immuno-incompétent, ce chaton-là. Donc, dès que vous pouvez, vous allez voir le vétérinaire, quand vous allez l'avoir, là, vous pouvez attendre une journée ou deux, puis vous allez voir votre vétérinaire, puis lui, il va vous dire quand est-ce que la vaccination va être faite. Puis ça se peut qu'il en ait besoin plus qu'un autre chaton. Ça se peut que ça soit 2, 3, 4 séries. En même temps, il faut que vous compreniez que si vous habitez dans un condominium au 58e étage, à l'Île des Sœurs, c'est moins risqué. Là, parce que si, quand il sort, c'est sur le balcon, c'est moins grave. Vous comprenez que si vous vivez...
en campagne.
C'est puis là qu'il part 2-3 jours parce qu'il s'en va rencontrer sa blonde, mais là, c'est une autre aventure.
Merci, Claudette, de votre appel. Gabrielle, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était, je me demandais si c'était recommandé d'avoir de la nourriture testée par les normes de l'AFCO.
Bien, c'est un minimum.
Un minimum.
Dans le fond, c'est que les nourritures, eux autres, ils s'assurent que les besoins minimaux sont respectés. Maintenant, là, ça vous force à regarder encore une fois l'étiquette. Moi, je suis pas tellement... honnêtement, je me fie à la compagnie puis au prix que je paye, mais principalement aux compagnies réputées. Les compagnies réputées, ils ont le défaut de nous charger un petit peu plus cher.
Mais ils ont des normes de qualité.
Mais en même temps, c'est que ça leur coûte cher s'il arrive quelque chose de grave.
Aussi, ouais.
OK? Fait que leur réputation, vous la payez, mais ils veulent la garder.
Ouais. Merci, Gabriel, de votre appel. Et on termine avec la dernière question. Et là, je sais que vous êtes nombreux encore à attendre. On pourra se reprendre la semaine prochaine avec Mélanie. Bonjour.
Oui, bonjour. Salut, moi, j'ai un caniche royal de 10 mois qui était sur de la From au départ quand on l'a eu. Il avait la diarrhée pendant à peu près 1 ou 2 mois. On a pensé qu'il était allergique au poulet. Donc là, avec le vétérinaire, on a parlé toutes sortes de choses, essayé de le changer. Elle voulait le mettre sur du produit hypoallergène. On a finalement fait une extraction de tout, puis on a commencé à donner un peu de poulet maison, un peu de... Là, finalement, il est allergique à rien, mais il mange aucune nourriture sèche. Je pense qu'on en a essayé au moins 16. Donc, la Acana, la Oven Bake, la From, j'en ai essayé plein de sortes. C'est pas un chien qui est gourmand, même avec les gâteries.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Mélania, c'est ça?
En fait, dans son cas, là, ce que vous m'expliquez, c'est qu'il y aurait probablement avantage à augmenter la quantité de conserve par rapport à la quantité de nourriture sec qu'il prend. C'est sûr que c'est plus dispendieux. Que vous lui donnez, que vous faisiez un petit peu vos recettes pour pallier à ça, mais donnez-lui, pour vous dépanner, la conserve sera, à mon avis, plus près là, de ce que vous avez besoin.
Merci de tous vos nombreux appels. On prend ça la semaine prochaine avec le docteur Raymond Place, vétérinaire de l'hôpital vétérinaire La Salle. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci,
Et
Catherine.
Et on se reparle demain, bien sûr, dès 10h. Salut, passez une belle journée.